Amen. Que Dieu soit béni. La semaine dernière, nous avons entamé un message et je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout. Ce n'était peut-être pas la peine de faire trop long. Donc, on l'a scindé en deux et aujourd'hui, on va terminer sur cette pensée. Les cinq refuges qui pourraient être mensongers pour le chrétien, qui pourraient être mensongers pour nous. Et je vais vous résumer en quelques mots ce que nous avons vu la semaine dernière. Mais avant cela, nous avions lu notamment ces versets de l'évangile de Luc avec les paroles les plus importantes, me semble-t-il, que j'ai tracées en rouge. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures en disant ceci, « Vous êtes témoins de ces choses », ce qui signifie que vous devez les annoncer et vous devez les partager. Je mets en parallèle un verset que l'on trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, c'est le verset 17. Proverbes chapitre 12, verset 17, il est dit ceci, « Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. » Celui qui dit la vérité proclame la justice et malheureusement le faux témoin, il proclame la tromperie. Vous êtes témoin de ces choses et il faut bien évidemment que notre témoignage soit à la hauteur de ce qui s'est passé dans nos cœurs et dans nos vies. Avant de revenir sur ce que j'ai partagé avec vous, j'aimerais vous relire un des deux témoignages que je vous ai lus en fin de prédication la semaine dernière. Le premier de ces témoignages était celui d'un jeune pasteur qui était originaire du Zimbabwe et qui allait être exécuté, mis à mort, malheureusement martyrisé. Et alors qu'il est en prison et qu'il se doute qu'il ne vivra pas bien longtemps, malgré tout, voilà ce qu'il dit. « Les dés sont jetés, j'ai pris ma décision, j'ai franchi le point de non-retour. Je suis devenu disciple de Christ. Je ne regarderai plus en arrière, je ne ralentirai plus ma course, je n'essaierai de prendre aucun raccourci, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. Mon passé a été racheté une fois pour toutes. Le présent seul compte à mes yeux. Quant à mon avenir, il est assuré par mon maître. J'en ai fini de vivre misérablement, de marcher sans espérance ni foi, dominé par la peur, sans vision ni rêve de joie. J'en ai fini avec les conversations futiles, les projets miteux, les artifices pitoyables. Je n'ai plus besoin de rechercher la renommée des hommes, les promotions, les applaudissements, la popularité en tout genre. Je n'ai plus envie d'avoir toujours raison, d'être celui que l'on écoute, que l'on admire, que l'on félicite, que l'on met en avant. Je vis désormais par la foi, n'ayant besoin que de sa présence. Pour marcher patiemment dans son chemin, je puise ma force dans mes contacts avec lui par la prière. C'est lui qui me fait réussir dans les tâches qu'il m'a confiées. Amen. J'ai pris ma décision, j'ai franchi le point de non-retour, je suis devenu disciple de Christ. Et cela l'a amené jusqu'au calvaire, jusqu'au sacrifice, c'est ce que l'histoire malheureusement nous apprend. Alors, qu'est-ce que l'on a dit la semaine dernière? On a dit que nous sommes dans un monde de mensonges, ça je ne vous l'apprends pas, vous le savez bien. Dans le livre d'Ésaïe d'ailleurs, il était prophétisé cela, que la vérité trébucherait sur la place publique. Elle n'aurait plus de place. On ne lui accorderait plus tellement de place, la délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, la vérité a disparu, la vérité trébuche, la droiture ne peut approcher, la droiture ne peut y accéder. Pour ne pas tromper et abuser les autres, nous voulons quand même être clairs par rapport à ces choses-là, il nous faut être vrais avec nous-mêmes, ça c'est une évidence. Alors, Je vous rappelais qu'il y a 9 possibilités de ne pas bien se comprendre, soit de ne pas comprendre l'autre, soit de ne pas se comprendre soi-même, parce qu'on est habile dans les raisonnements pour justifier ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit, etc. Mais entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, et dans le fond, ce que tu veux entendre, ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ce que tu veux comprendre et ce que tu comprends, il y a 9 possibilités de s'égarer, il y a 9 possibilités de se mélanger les pinceaux et de ne pas être franc, de ne pas être vrai. Et la vérité trébuchera. La vérité trébuchera si nous trébuchons sur ces quelques vérités-là. La première chose que l'on avait vue ensemble, et elle est importante, c'est qu'il nous faut rechercher, sonder nos cœurs et au besoin retourner vers l'Éternel pour élever vers lui un cœur pur, des mains pures, Lamentations de Jérémie chapitre 3. Mais que la vérité trébuche et que la vérité ne soit pas claire dans la bouche des non-croyants, j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas être étonné de cela. Il ne faudrait pas en être surpris. Si vous êtes encore déçu, surpris, parce que votre voisin, les gens qui vous accompagnent, qui sont autour de vous, ne vous ont pas dit la vérité, n'ont pas été francs avec vous, n'ont pas été vrais avec vous, soyez réalistes. Le cœur de l'homme est ainsi fait. Mais si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas répondre au mensonge par le mensonge. Vous ne pouvez pas répondre à la dissimulation par de la dissimulation. Vous ne pouvez pas ne pas être franc sous prétexte que les autres ne le sont pas. Vous êtes témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Mais vous êtes aussi témoin d'une œuvre qu'il accomplit en vous. Vous êtes témoin d'une œuvre qu'il a accomplie dans votre cœur et cela doit perdurer, évidemment, cela doit se faire entendre. Qu'un croyant se laisse tromper et égarer par les ruses du diable, notamment par ces quelques refuges qui pourraient devenir mensonges pour nous, ça, quand même, ce serait abusé. Ça, ce serait dommage de tomber ainsi dans quelques travers. La première chose que nous avions vue, c'est que il est possible de se réfugier derrière cette vérité, et c'est écrit d'ailleurs dans l'Écriture en bien des exemples, Dieu est amour. Et j'ai rajouté, il est miséricordieux, il est compatissant, il est bienveillant, il est patient. Nous avons goûté à cette grâce parfaite. Et puis parce que Dieu est amour et parce que Dieu est parfait, on en a oublié quelquefois que tout n'était pas permis et que tout n'était pas forcément utile. L'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, dans 2 textes différents, tout d'abord il dit « tout m'est permis » et par ailleurs il dira « tout est permis ». À moi personnellement ou d'une manière générale, tout est permis, mais je ne veux pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Ça m'amène en substance, à vous rappeler ce qu'il était dit dans ce texte des Hébreux. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est une réalité. À l'époque de l'Ancien Testament, malheur à celui qui transgressait la loi, surtout si la loi justifiait de mort celui qui avait commis telle et telle infraction. Mais la grâce nous a amenés à la vie, béni soit Dieu. Il valait mieux qu'un seul meure pour le peuple. Jésus est mort pour le peuple. Jésus est mort pour les hommes. Lui seul a porté le poids de notre condamnation, donc maintenant, nous sommes passés de la mort à la vie. Sauf que, il ne faudrait pas oublier que notre vie chrétienne doit être une vie de sacrifice. Parce que si elle n'est pas une vie de sacrifice, elle n'est assurément pas une vie de disciple. D'ailleurs, c'est assez paradoxal, lorsque Jésus traversera un champ avec ses disciples récupèrent quelques épis de blé, ils frottent dans leurs mains les grains pour en détacher la cosse, et puis ils avalent cela, ils mangent cela. Ce qui n'a pas du tout plu à d'autres, disciples notamment de Jean-Baptiste et d'autres qui pratiquaient le jeûne et notamment respectaient le sabbat pour les juifs, les pharisiens. Et ils vont dire, mais pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis de faire? Pourquoi transgressent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière-là? Jésus dira, mais Jésus, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme, est maître du sabbat. Il est maître de ce temps de repos, il fait ce qu'il veut. Donc on ne va pas contraindre les hommes. Et il dira ceci, tant que je suis là, il faut se réjouir. Un jour viendra où je ne serai plus là, ils se lamenteront. Mais tant que je suis là, on ne va pas se lamenter. Alors, c'est curieux comme la loi a été mal interprétée, mal comprise bien souvent, mais en tous les cas, il est une chose que le chrétien comprend très vite aujourd'hui, c'est que le salut l'emmènera au ciel. Et de ce fait, c'est comme une assurance tout risque. Ça y est, je suis passé dans le bon camp, je suis sauvé, je ne crains plus rien. Et petit à petit, c'est une généralité, hein, petit à petit, le chrétien s'endort. Petit à petit, le chrétien s'installe confortablement dans ce fauteuil qui ressemble à celui d'une grâce parfaite. Et il se dit, oh là là, ma vie était terrible avant. Il m'a délivré, il m'a libéré. Je suis libre et heureux, tout va bien. Et on en oublierait qu'être disciple, c'est un peu plus que cela quand même. Alors vous avez raison de dire que Dieu vous aime et que Dieu est amour. Et surtout, ne l'oubliez jamais. Ceci étant, Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie et elle a été remplacée, cette loi de Moïse, par une autre loi, celle de la grâce. C'est quand même une loi, la grâce. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des façons de faire, bien évidemment. Alors, dans la vie chrétienne, il faut comprendre qu'il y a une part pour le renoncement, comme il y a une part pour le sacrifice, comme il y a une part pour l'effort, parce que, humainement parlant, tout le monde recherche la tranquillité, tout le monde recherche la facilité, tout le monde recherche le bien-être, c'est inhérent à la nature humaine. Sauf que quelquefois, être chrétien, être disciple de Christ, comme cet homme du Zimbabwe, nous invitera à du renoncement, nous invitera à beaucoup plus de peine et de douleur. Alors, ne nous satisfaisons pas en nous disant Dieu est amour, il m'aime comme je suis, il m'aime tel que je suis, malgré mes défauts, mes défaillances, etc., etc. Je dis oui, d'accord, mais il faut aller plus loin que cela et ne pas se réfugier, ça pourrait devenir un piège et un mensonge pour nous. La deuxième chose que nous avions vue, c'est celle-ci, il nous est facile de nous comparer aux autres, parce qu'on trouve toujours pire, mais comme je vous le disais, Si vous n'avez pas trouvé mieux, venez vers moi, je vais vous en donner quelques dizaines de personnes, de noms, de personnalités, de personnes qui sont meilleures que vous et que moi. C'est très facile à trouver, il suffit juste de chercher. Sauf qu'en général, on cherche le pire, on ne cherche pas le meilleur. Et ainsi, on se suffit en disant, je ne suis pas pire que les autres. Et vous avez raison, vous n'êtes pas pire que les autres, peut-être pas meilleur. C'est là le problème. Vous avez besoin de trouver meilleur, de trouver mieux. Alors, Paul, lui-même, n'osait pas se comparer aux autres. Nous n'osons pas nous égaler. Nous n'osons pas nous égaler nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. On avait terminé sur le témoignage de cet homme religieux et de cet incroyant qui, tous les deux, montent au temple pour prier. L'un met en avant toutes ses qualités, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, tandis que l'autre se frappe la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Et à cette question, vous avez tous répondu juste évidemment, quel est celui qui est rentré chez lui justifié, écouté de Dieu, bien évidemment pas celui qui s'est comparé aux autres, mais celui qui s'est comparé à personne, celui qui s'est frappé la poitrine en disant « Je suis un misérable ». Il avait raison. Et Dieu aime ce sentiment de contrition et ce sentiment d'un cœur pur. Et puis, la conclusion était tirée du livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 12 à 14, il était dit ceci. « Il est une race qui se croit pure ». Il est une race qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains. Il est une race dont les paupières sont élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives. Il est une race dont les mâchoires sont des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. Et on avait prié, Seigneur, que jamais, jamais, jamais l'Église ne soit de cette race-là, que jamais, jamais, jamais l'Église ne soit de ces gens-là. À qui devons-nous rendre compte? Bien évidemment, c'est à Dieu. Alors, le troisième point est celui-ci, il y a le temps de Dieu. On va lire ensemble dans cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 2. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, on va lire même à partir du verset 1er, c'est le verset 2 qui nous intéresse. Mais il est relié forcément au verset précédent, puisque le verset 2 est une citation, est un texte que l'on retrouve dans Ésaïe au chapitre 49. Voici ce que l'apôtre Paul dit, chapitre 6, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Mon frère, ma sœur, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Il est évident que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Vous y croyez à cela? Il y a des choses que l'on espère depuis des années, on ne les a toujours pas obtenues. On ne va pas désespérer. On se dit, au temps de Dieu, ça se fera. Maintenant, ce qui arrive également, et là, je m'adresse à vous, disciples de Jésus-Christ, qui êtes témoins de ces choses, qui avez entendu ce qu'il est dit à la fin des évangiles, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il est évident que Dieu fera toutes choses belles en son temps. En fait, je peux très bien rencontrer quelqu'un dans la rue et lui parler de ma foi, et il va m'envoyer promener. Il va me dire, « Oh, ça ne m'intéresse pas, laissez-moi tranquille avec vos histoires, avec vos sornettes. Ça ne m'intéresse pas, regardez dans quel monde nous vivons. Encore un attentat, encore de la peine et de la douleur. Pourquoi parlez-vous de Dieu ?» Je pourrais être envoyé sur les roses. Est-ce que je vais me dire, bon, lui, il est perdu pour l'éternité? J'en sais rien, en fait. S'il continue sur cette voie-là, c'est sûr, il est perdu pour l'éternité. Mais peut-être qu'un jour, il va changer de sentiment. Peut-être qu'un jour, quelqu'un d'autre va l'aborder, va discuter avec lui, et là, il va se passer quelque chose. Et là, il va être troublé, repris, il va s'humilier devant Dieu, il va se convertir. C'est fort possible. Maintenant, je pourrais très bien m'adresser à quelqu'un, une fois, il m'envoie promener, deux fois, il m'envoie promener, trois fois, il m'envoie promener, et puis je pourrais dire, puisque c'est comme ça, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Et je m'en vais vers quelqu'un d'autre qui m'envoie aussi promener, etc., 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 et ainsi de suite. Bref, tous ceux à qui je parle, je ressemble à un chat noir, tous ceux à qui je parle m'envoient promener. Et là, je pourrais me dire, c'est un peu ça va, quoi, mais je ne suis pas fait pour ça, moi. Je vais laisser cette tâche aux autres. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Si Dieu veut les sauver, il les sauvera, avec ou sans moi. Il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, il y a bien le temps de Dieu. Et pendant qu'il y a le temps de Dieu, moi, je fais quoi? Parce que je ne fais plus rien? Parce que ça ne marche pas? Parce que je ne fais plus rien parce que c'est dur? Est-ce que je ne fais plus rien parce qu'on ne m'entend pas? Ou on ne m'écoute pas? Est-ce que je ne fais plus rien parce que j'en ai marre de prendre des coups? Est-ce que je ne fais plus rien parce que, finalement, c'est certainement pas mon appel, c'est pas ce que j'ai reçu, c'est pas ce que Dieu m'a donné, c'est pas à cela que je suis appelé, c'est pas ça que Dieu me demande. Mais Jésus dira, allez par tout le monde. Vous connaissez cette parabole, certainement, de l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Quatre semences qui tombent dans quatre terrains différents, le long du chemin, parmi les épines, parmi les pierres et dans la bonne terre. On a souvent épilogué, on a souvent apporté la conclusion de cette semence qui, quand elle est plantée dans le bon endroit, elle portera du fruit. On peut faire un parallèle avec la vie chrétienne, ne pas se laisser étouffer par les soucis du siècle présent, de chercher à approfondir les choses de Dieu. Sinon, quand il va y avoir l'épreuve, on va être séché sur place. On a expliqué toutes ces choses-là. Mais n'oublions pas quand même que tout a commencé parce qu'un semeur est sorti. Si le semeur n'était pas sorti pour semer sa semence, la semence, elle serait restée dans le sac. Elle n'aurait jamais germé. Je ne pense pas. Enfin, en tous les cas, elle n'aurait pas porté de fruits. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il a bien fallu que le paysan prenne le sac et aille dehors. Il aille dans le champ. Alors, c'est sûr que quand il a semé, geste auguste du semeur, tout n'est pas tombé dans la bonne terre, malheureusement. Mais n'empêche que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Il n'a pas simplement prié en disant « Seigneur, fais germer cette semence ». Il n'a pas demandé au Seigneur d'envoyer une espèce de tornade qui ouvre les sacs et qui sorte les sacs de la maison, aille en direction du champ, non, plus à droite s'il te plaît, et une fois qu'il est dans le champ, éparpille un peu toute la semence. Non, c'est curieux comme dans notre langage, quelquefois on se laisse piéger. Il y a le temps de Dieu. Alors, c'est incroyable parce que souvent, on demande au Seigneur d'envoyer des âmes nouvelles dans l'Église. Seigneur, envoie des personnes nouvelles à l'Église. On veut voir des nouveaux. Amène-les, Seigneur. Et le Seigneur dit, va les chercher. Si tu veux voir des nouveaux, va les chercher. C'est comme si on priait, Seigneur, que la semence toute seule, elle sorte du sac et elle aille se jeter dans la terre. Vous souriez, parce que c'est impossible. Ça ne se passera jamais. Et quelquefois, on se satisfait en disant, il y a le temps de Dieu. Ce n'est pas trop mon truc à moi, mais moi je prie pour qu'il y ait un réveil, je prie pour qu'il y ait l'action de Dieu, je prie pour que Dieu manifeste son esprit. Étudiez l'histoire de l'Église. Jamais un réveil n'est arrivé comme ça. Ce n'est pas une génération spontanée. Hein. Jamais le réveil, c'est jamais ça. Il y a toujours un travail préparatoire. Il y a des centaines, des centaines de milliers de semeurs qui ont semé. Ils ont été et ils ont semé dans le froid, sous la pluie. Ils ont semé. Et puis après, ils ont continué d'une manière spirituelle. Ils ont prié pour la semence qu'ils avaient semée. Ils ont arrosé cette semence, si vous voulez. Mais ils ont fait quelque chose. Ce serait un piège, bien-aimé, que de se dire, il faut attendre le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment, c'est compliqué, c'est difficile. Mais si on se laisse à observer les nuages, mais on ne sortira jamais. C'est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Celui qui observe les nuages ne sèmera pas. Il ne le fera pas parce qu'il croit que l'orage vient, que la pluie va emporter la semence, que ça ne fonctionnera pas. Il ne le fera pas. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. C'est sûr que faire, c'est prendre un risque. Prendre un risque, faire quelque chose. C'est se mettre en danger parce que ça peut rater, ça peut être mal interprété, ça peut être mal perçu. Et on peut prendre des coups. Mais ne rien faire, je crois que c'est pire. Ne rien faire, c'est pire. Alors, d'une manière ou d'une autre, bien-aimés, souvenons-nous à qui nous devons rendre compte et à qui nous devons plaire. C'est à Dieu que nous devons plaire, c'est à lui que nous devons plaire. Et si ça ne plaît pas aux autres, que l'on chante l'Évangile, que l'on parle de l'Évangile, ce n'est pas grave. On parlera de l'Évangile, on chantera l'Évangile, on affichera l'Évangile. N'ayez pas peur de porter des t-shirts, des vestes avec des messages très clairs. N'ayez pas peur de le faire. Tellement de gens qui n'ont pas peur d'afficher la mode, c'est pas vrai? La mode, elle s'affiche selon les époques, ça change, mais ça se voit sur les coupes de cheveux, ça se voit sur les habits, ça se voit, en ce moment, c'est largement la mode des tatouages depuis pas mal de temps, hein. Mais il y a des gens qui ne l'auraient jamais fait il y a 10 ans. Et là, ils ont franchi le pas, ils l'ont fait, parce que ben voilà, ça choque plus, tout le monde l'a fait. Bien-aimés, n'ayons pas peur d'afficher notre foi. N'ayez pas peur de le faire, parce que vous n'avez rien à perdre, sinon de déplaire à votre Dieu, et ce serait tellement dommage. Quatrième refuge qui pourrait devenir un mensonge, ça paraît incroyable, mais c'est une réalité, je fais partie des rachetés, des élus, je suis sauvé. C'est une vérité de l'Écriture, hein. Bien évidemment. Il est dit dans la deuxième lettre à Timothée, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Par ailleurs, si la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, il y a une autre réalité, malgré tout, et c'est dans la première lettre à Timothée qu'il est rappelé ceci. D'ailleurs, La référence, c'est bien 1 Timothée, c'est pas 2 Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 2 et verset 4. La réalité, c'est que je crois à la prédestination, mais je crois aussi que Dieu laisse le libre choix à chacun. Alors, si vous mettez ces deux choses-là à côté, elles ne vont pas ensemble. Parce que qui dit prédestiné, ça veut dire que je n'ai pas le choix. Je suis prédestiné, ce n'est pas moi qui choisis, Dieu a choisi pour moi. Non, Dieu vous a prédestiné au salut. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes, toutes les femmes. La réalité, c'est que tous ne le seront pas. Pourquoi ? Parce que certains vont refuser, certains ne vont pas le vouloir. Mais si vous l'avez accepté, frères et sœurs, si vous avez accepté d'être pardonné, si vous avez accepté le salut, gloire à Dieu, si vous avez accepté de faire la paix avec Dieu, alors on peut être sauvé, mais je crois par contre qu'on peut perdre son salut. Ouais, on peut perdre son salut. Dans 1 Timothée, justement au chapitre 1er et au verset 18, il est dit ceci, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Vous l'interprétez comment ça? Si quelqu'un fait naufrage, s'il est en croisière et qu'il fait naufrage, s'il n'y a pas une bouée de sauvetage, il coule, hein ? On est bien d'accord. Au milieu de l'Atlantique, du Pacifique, même de la Méditerranée, même d'un lac, hein ? S'il n'y a pas un secours, s'il fait naufrage, il peut couler, il peut mourir. Mais le naufrage par rapport à la foi, ce n'est pas moins que ça, hein, le naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont fait naufrage. Quand j'entends ça, je me dis, ce n'est pas possible, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment un chrétien pourrait faire naufrage ? Quand on a goûté au don céleste, Hébreux le dit, quand on a goûté au don céleste, quand on a goûté à cette vie de Dieu, à cette vie spirituelle, mais pour rien au monde, on voudrait retourner en arrière, hein, pour rien au monde. C'est un peu comme si on devenait comme un chien qui, quelquefois, après avoir vomi, va lécher ce qu'il a vomi. C'est écrit dans l'Écriture comme cela. On ne va jamais faire cela, ce n'est pas possible. La grâce est tellement belle, sauf que quelquefois, ce que l'on a rejeté en bloc va essayer de revenir. Vous avez blindé la porte, ça ne passera pas par la porte, ça passera par la fenêtre, ça passera par le soupirail, ça passera par la cave, je ne sais pas par quel endroit, une fissure dans la muraille, on n'a pas bien bouché les trous, ou tout du moins, l'ennemi attaque et il envoie à boulet rouge contre notre forteresse, et notre forteresse, elle finit par s'effriter. Bien-aimé, Dieu nous qualifie pour son service. Il nous communique des dons, chacun des dons divers, tous les cas pour le servir. Soit ces dons, vous les employez, soit si vous les enterrez, on vous le reprochera. Et tôt ou tard, vous les perdrez, forcément, vous ne les utiliserez plus. C'est difficile de voir un chrétien qui était zélé, mais alors comme pas deux. Le premier à l'église, le dernier à en partir. Dès qu'il fallait faire quelque chose, il levait toujours la main. Dès qu'il avait besoin de quelqu'un, c'était toujours lui, etc. C'est très dur de voir un frère, une sœur comme ça, qui au fil du temps lève moins la main, arrive en retard, ne vient plus, se propose pour plus rien. Le feu s'est éteint. Ou en tous les cas, la flamme a nettement diminué. Frères et sœurs, si vous n'alimentez pas vous-même votre feu, qui va l'alimenter ? Si vous ne soufflez pas sur vos braises, qui va le faire ? N'attendez pas que ça tombe du ciel comme ça. Le salut et la grâce sont venus par Jésus-Christ. Mais comme disait le témoignage de ce pasteur du Zimbabwe, hein, j'ai fait une chose, je ne peux plus reculer, je ne peux plus aller en arrière. C'est le point de non-retour. Je suis disciple, je suis devenu disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs, armons-nous de courage, et je pense que Dieu nous y aidera, bien évidemment, parce qu'on peut recevoir des dons et on peut les égarer, on peut les perdre, on peut les dilapider. C'est quand même surprenant ce qu'il est dit concernant ces fameux Hyménée et Alexandre qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais un peu plus loin, il est parlé de Démas. C'est plus subtil. Démas, compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Vous le trouvez dans les Colossiens, vous le trouvez dans d'autres lettres. Et là, dans Timothée, il est dit ceci, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il est retourné à sa vie d'avant. 2 Timothée chapitre 4, verset 9. « Démas m'a abandonné. » Mais quand Paul dit ça, si Démas l'a abandonné, ça veut dire qu'il a abandonné l'œuvre. Il était compagnon d'œuvre. Et ne croyez pas qu'en abandonnant l'Église, on n'abandonne jamais le Seigneur. Ne croyez pas qu'en abandonnant la communion fraternelle, on n'abandonne pas le Seigneur. Ça ne fait qu'un. Ça ne fait qu'un. Dans l'autre sens, un jour, Jésus reprochera à certains qui se vantaient d'avoir fait plein de choses. Matthieu chapitre 7. Certains seront devant lui au ciel en disant « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons annoncé l'évangile en ton nom. » Jésus lui dira « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y avait un double langage. Ils faisaient de bonnes actions, mais ils avaient une vie mauvaise au-dedans d'eux. Mais Dieu n'était pas dupe, hein. Il n'a pas accepté ça. Alors certains glissent petit à petit, par amour pour le siècle présent. Il y a des choses qui étaient pour nous des liens. On en était esclaves. On est tous pareils. Quand on est venu à Dieu, on était esclaves de plein de choses. Alors il y a des vices qui sont manifestes, puis il y a des plaisirs cachés qui sont plus subtils. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas grandiose, mais ça nous mangeait notre liberté, ça nous mangeait notre temps, ça nous mangeait notre vie sociale. Quand on est devenu chrétien, on a été débarrassé de ces choses-là. Vous savez quoi? Le diable essaiera de vous piéger avec ces choses-là. Parce que c'est un point faible. C'est un point faible. Vous avez été délivré, gloire à Dieu. Et le pansement a été mis, et ça tiendra, hein, aucun problème. Sauf que ça peut rester un point faible. Ça signifie qu'il faut se battre et lutter et veiller. Veiller, c'est important. C'est bien la pensée de Jésus. Il y a des limites à ne pas franchir et Dieu vous y aidera toujours. Ces limites qu'il ne faut pas franchir, Dieu vous y aidera toujours. Et puis, je termine sur l'idée que nous sommes dans les temps de la fin et nous sommes même tellement dans les temps de la fin que ça fait penser à cette parabole de Jésus, un homme, un employeur, un patron, est sorti le matin à 6 heures du matin pour aller chercher des ouvriers pour aller travailler dans ses champs. Il en a trouvé quelques-uns et il les a envoyés pour aller bosser. Il est rentré à la maison. 3 heures plus tard, à 9 heures du matin, il sort à nouveau. Il y en a toujours qui sont sur la place, bureau d'intérim, en plein air. Il dit « Voulez-vous travailler ?» Oui. Au premier, il leur avait dit « Je vous donnerai tel salaire. » Ils avaient conclu l'affaire, pas de problème. On travaillait 12 heures de rang. Au deuxième, à 9 heures du matin, il leur dit « Allez, je vous donnerai ce qu'il est convenable de vous donner. Bon, » ils sont contents, hein. Il y a déjà un quart de la journée qui est perdu. Donc ils y vont. Il sort à midi, il en trouve encore. Il sort à 3 heures, il sort jusqu'à 5 heures. Une heure avant la fermeture de l'entreprise, si vous voulez. Et il les voit encore là. Et il dit « Mais pourquoi vous êtes là à rien faire ?» Pourquoi vous n'avez pas travaillé aujourd'hui? Et ils semblent honnêtes, ils disent, on aurait bien voulu, mais personne ne nous a embauchés. Voyant cela, il dit, ben, allez travailler. Ils y vont, ils n'ont pas le temps d'enfiler le bleu, que ça sonne, il faut aller pointer, c'est terminé. Bon, une petite heure. Quand ils vont voir le comptable pour toucher la paye, voilà que le comptable leur donne une journée pleine de salaire. Ils ont dû être étonnés en disant « il y a une erreur, nous on n'est pas ceux qui ont bossé 12 heures, nous on n'a travaillé qu'une heure ». Il dit « ouais, mais le patron m'a dit de vous donner ça, moi je vous donne ça ». Alors ils sortent, et tout fiers avec leur pécule, et les autres qui attendaient la paye en voyant ça, ils se sont dit « waouh, une heure payée 12 heures, celui qui avait travaillé 3 heures, celui qui avait travaillé 6 heures, celui qui avait travaillé 12 heures, il a multiplié le chiffre d'autant, forcément ». Sauf qu'au fur et à mesure qu'ils ont été touchés la paye, ils ont tous touché la même chose, tous, la même chose, un denier. Et ce qui peut paraître incroyable, c'est que ceux qui étaient d'accord au début ne sont plus d'accord maintenant. Il devait être un peu français, hein, certainement. Il y avait du sang français dans tout ça. Il râle. C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'ils ont gagné la même chose que nous ? Et le patron, très justement, leur dit, mais ton problème à toi, c'était de bosser. Mon problème à moi, c'était de te faire travailler. Je t'ai fait travailler. Et mon problème à moi, c'est que je te paye. Et j'ai décidé de te payer. On s'est mis d'accord sur un certain salaire. Tu étais d'accord. Donc, il est où le problème ? Tu as eu ce qui était promis. Non ? Il n'y a pas de problème en soi. Il n'y a pas de problème. Sauf que le patron va lui dire, ça te pose un problème que je sois généreux ? Ça te pose un problème que je fasse de mon argent ce que je veux ? Ça te pose un problème si je veux donner à un autre autant qu'à toi ? Oui, mais il a travaillé qu'une heure. Oui, mais s'il avait pu être embauché dès le matin, apparemment, il l'aurait fait, donc il aurait eu la même paye. Il n'a rien de moins, mais il n'a rien de plus non plus. Il a quand même la même paye que toi. Il n'en a pas plus. Vous voyez ? Ouvrier de la 11e heure. Certains vont être sauvés à l'article de la mort. Gloire à Dieu. Juste avant de passer dans l'éternité, ils vont accepter Jésus. Mais pour vous qui avez accepté Jésus alors que vous êtes encore jeune et beau, profitez-en. Profitez-en. Parce que on ne va pas attendre de se dire « je sens que la mort arrive » pour mettre les bouchées doubles. En disant « j'ai bien envie que ce soit comptabilisé au ciel tout ce que je fais. Hein. » Parce que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. L'arithmétique de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Le problème, et ça, ça peut être aussi un faux semblant, ça peut être un piège, parce que le risque serait de calculer qu'on va sortir qu'à la dernière heure pour trouver le bon patron qui va nous embaucher, et comme ça, on aura la paye comme si on avait œuvré toute la journée. Soit vous vous mettez au boulot maintenant pour le Seigneur, jusqu'à la fin de votre vie, et vous aurez votre récompense. Soit vous dites, toi, j'attends encore un peu, j'ai du temps, ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Procrastination. Ce que je ne fais pas maintenant, je le ferai plus tard. On peut toujours dire ça, mais c'est un piège. Parce que ce que vous ne faites pas maintenant, c'est perdu. C'est perdu. Ne dites pas, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Il m'est arrivé une fois, de devoir aller rendre visite à quelqu'un. Et la journée avait été longue, la journée avait été difficile, et je voulais vraiment y aller. Et puis j'ai dit, j'irai demain. Personne n'était pas bien, elle était hospitalisée. Elle est morte. Elle est morte dans la nuit. Mais je m'en suis voulu quand même. J'ai dit, plus jamais, quoi. Si je dois y aller, il faut que j'y aille. Et on ne va pas dire... appelez-moi quand vous voulez, quand la personne appelle, oh, j'ai pas le temps aujourd'hui, je décrocherai demain. C'est pas possible de faire ça. Pas possible. On n'est pas des ouvriers de la 11e heure. Peut-être que face à l'éternité, on l'est quand même. Face à l'éternité, Jésus n'a jamais été aussi près. Mais par rapport à l'âge où vous vous êtes donné à Dieu, où vous allez vous donner à Dieu, ben, faut pas perdre de temps, quoi. Il faut y aller maintenant et il faut œuvrer. Je vous rappelle ce que cet homme disait, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, j'ai franchi le point de non-retour. Alors c'est malhonnête que de dire qu'on a le temps, puis c'est toujours facile de reporter à plus tard évidemment, il faut racheter le temps. Dans le livre des Proverbes, j'avais noté également ce verset, il n'est pas à l'écran, il est dit ceci, chapitre 27 du livre des Proverbes, verset 1er, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. » Ça veut dire oh, « je verrai demain, je verrai demain. » Ne te vante pas de ce jour-là. Ne programme pas pour demain. On a programmé un voyage en Israël. Ça sert à quoi? On ne sait pas. Hein. Mais il faut prévoir quand même. On peut avoir des projets. Mais si c'est une justification pour rien faire aujourd'hui, ce n'est pas bien. Si c'est une justification pour ne pas le faire maintenant, ce n'est pas bien. Alors, j'aimerais vous rassurer, et je conclue sur ce bel exemple. Dans l'Évangile, vous savez qu'on peut toujours changer d'avis. Hein. On peut toujours changer d'avis. Et il nous est rapporté l'histoire d'un homme qui a décidé d'envoyer des personnes, ses deux enfants, travailler Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis, en vérité, les publicains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jésus est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » On n'est pas de la race de ces gens qui ont été enseignés dans la voie de la justice. On était plutôt publicains ou prostituées. Publicains, assurément, et gens de mauvaise vie, c'est sûr. Alors, puisqu'il nous a emballés, entraînés à sa suite, alors mettons les bouchées doubles. Demain s'arrêtera peut-être plus vite qu'on l'imagine. Alors mettons les bouchées doubles. Je vous avais lu deux témoignages. Le deuxième était celui de l'évêque Abel Muzorere, qui a prié avant de diriger le Congrès national africain. La plupart de ses prédécesseurs ont été tués ou emprisonnés. Et les lignes d'un ami, une lettre qu'il a reçue, emportèrent sa décision. Voilà ce que son ami lui a écrit. Les humains sont déraisonnables, illogiques et égoïstes, mais aime-les quand même. Si tu fais le bien, ils t'accuseront d'égoïsme ou de motivation personnelle, mais fais le bien quand même. Quand tu réussiras, tes amis seront hypocrites, mais tes ennemis seront bien réels. Pourtant, essaye de réussir quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui peut être oublié demain, mais fais le bien quand même. L'honnêteté et la franchise te rendront vulnérable, mais sois honnête et franc, quand même. Les hommes au grand cœur, pleins de grandes idées, peuvent être renversés par les plus petites gens aux esprits minuscules, mais rêvent les plus grandes choses quand même. Les humains s'apitoient sur les sorts des opprimés, mais lèchent les bottes des puissants, pourtant luttent quand même pour les défavoriser. Offre au monde le meilleur de toi-même et tu seras probablement méprisé, mais donne malgré tout tout le meilleur de toi-même. C'est beau, hein ? Quand même, on a des choses à faire, n'est-ce pas ? Alors, faisons-le. Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, faisons-le quand même et ne rentrons pas dans une belle théologie sécurisante qui nous éviterait de nous mettre en danger. Un chrétien est en danger, je vous citais, il est sur une liste noire. C'est le livre de vie, menacé de mort certainement, mais sauvé pour l'éternité quand même. Alors, travaillons à son œuvre et glorifions Jésus. Amen. On se lève ensemble et on va prier et demander à Dieu sa grâce. Quel privilège d'être à toi, Seigneur, quel privilège de t'appartenir. Nous avons pris la décision, nous ne retournerons pas en arrière, nous avons décidé, c'est le point de non-retour. Nous avons décidé de t'appartenir et de te suivre. Merci pour le bien que nous pouvons apporter autour de nous en annonçant Jésus-Christ. Merci pour le bien que nous pouvons communiquer en parlant de l'Évangile autour de nous. Continue ton œuvre dans les cœurs et dans les vies. Fais-nous du bien dans ton nom précieux et manifeste ta gloire. Accompagne-nous, garde-nous en toutes choses et glorifie-toi. Bénis la réunion de tout à l'heure. Elle est importante pour nous parce que nous voulons que l'Évangile retentisse, rendre témoignage que tu es vivant et que tu sauves des hommes encore aujourd'hui. À toi l'honneur et la gloire. Raccompagne-nous dans ta paix et bénis toute cette semaine qui est là, qu'elle serve à la gloire de ton nom et de l'Évangile. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Bon retour à tous.